lire avec vous ce passage. Ça commence que la femme est en train de parler, la femme samaritaine est en train de parler avec Jésus. Puis Jésus vient de lui dire qu'il était le Messie, il dit « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle? » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? » Et ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient à manger, disant « Rabbi, mange! » Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et les disciples se disaient donc les uns aux autres « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a amené à manger? » Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, et voici, je vous dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Donc, c'est la fin du chapitre 4. Super histoire, la rencontre de la femme samaritaine au puits. Et les disciples font ce qu'ils sont supposés faire. Un disciple devait s'occuper des biens de son maître. Donc, si on peut dire, le rabbin s'occupait de les enseigner, puis lui, il se souciait pas de sa nourriture, puis tout ça. Fait que les disciples font ce qu'ils ont à faire, sont en voyage, ça fait déjà 1 journée et demie qu'ils voyagent, sont arrêtés en Samarie, puis il leur reste à peu près 1 journée et demie de marche, puis là, ils ont faim, puis c'est passé l'heure du repas. Assez que les disciples, quand ils reviennent de faire des courses, ils disent « Coudon, y a-tu mangé? » Fait qu'ils ont dépassé l'heure, puis ils ont oublié d'y laisser de l'eau. Fait que là, Jésus a dû demander à la femme, tu sais, de le faire boire. Les disciples s'occupaient aussi de l'enterrement de leur maître après qu'il soit décédé. C'est eux qui prenaient vraiment en charge le maître ou le rabbin de ce temps-là. Dans les Proverbes, on lit « Celui qui soigne un figuier en mange les fruits et celui qui garde son maître sera honoré. » Donc, ils partageaient leurs biens avec celui qui les enseignait. Dans Galates 6, 6 à 7, ça parle aussi que l'Église, la première Église qui était toute petite, elle a pris ce principe-là aussi, de partager des offrandes pour prendre soin de ceux qui l'enseignent. C'est écrit que celui à qui on enseigne la parole, faire part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, un passage ici important, un principe important qu'on voit modélisé dans les disciples de Jésus déjà. Dans notre église, c'est pas rare que des gens aient un métier ou des ressources, puis des fois on m'appelle, on est à une vente de garage, puis on dit « Hey, j'ai trouvé quelque chose qui serait super pour toi », puis là on me fait profiter d'un deal. Puis je comprends que des membres de l'église ne pourraient pas faire ça avec tous les membres d'une église, tu sais, mais je vois souvent des petits clins d'œil des gens qui viennent me donner un petit coup de main, comme soit ils me font profiter de leur expérience, de leur métier, puis quand je leur dis merci, puis je leur dis, hey, je te dois combien, tu sais, parce que normalement, tu sais, chacun mérite son salaire, tu sais. Puis je veux vraiment pas prendre ça pour acquis, mais on me dit, mais non, écoute, ça me fait plaisir. Puis il y en a qui me répondent, je suis ton bedeau, tu sais, comme dans l'expression là, du serviteur de messe, puis tout ça. Je suis un bedeau. Gilles, je l'appelle mon bedeau. J'ai son trailer, j'ai souvent ses outils, puis tout. Puis je dis merci, Gilles, tu sais. Puis merci quand vous offrez comme ça un service parce que je suis votre frère, mais aussi parce que je suis votre pasteur, puis vous prenez soin de moi. Et on me répond, c'est bien normal qu'on fasse ça, tu en fais pour nous aussi. Et c'est comme s'il y avait un échange de dons. Des dons spirituels sont donnés, puis il y a quelqu'un qui est reconnaissant puis qui veut nous aider comme ça. Puis c'est toujours avec beaucoup de reconnaissance que je vois ça. Puis on le voit chez les disciples avec le Seigneur aussi. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 11, « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? » On pourrait dire, si le cinéma a préparé un film pour vous, est-ce normal que vous payiez quand vous allez faire une entrée? On n'est pas surpris quand on va au restaurant puis qu'on se fait servir un bon repas de payer une facture. Eh bien, Paul, il dit qu'il y a un échange spirituel. Donc, les gens qui nous enseignent méritent leur salaire, puis on devrait leur donner. Puis là, je suis obligé de sortir un peu puis dire, regarde, moi, je suis un peu un remplaçant. Un jour, il va y avoir un pasteur à ma place, mais là, pour le moment, c'est moi qui fais cet office-là et je vous enseigne aussi toute la parole. Et ça, c'est un point important. Pour une petite église, c'est important, surtout les églises qui ne peuvent pas se payer un pasteur à temps plein. Je pense à Saint-Michel, je pense aussi à l'église d'Avery-Ville. C'est important dans toutes les églises qu'on va ouvrir dans le futur. C'est quoi tu parles, Jean-Sébastien? Ben oui, Seigneur, on va continuer à faire des belles choses. Les églises que Dieu ouvre, comment est-ce que ça fonctionne en fait? Ça fonctionne que les gens ne peuvent pas se permettre de se payer un pasteur à temps plein, mais moi je recommande, mettez de côté une première année de salaire. Même si vous êtes juste 5 dans l'église, mettez de l'argent de côté, collez de l'argent pour qu'à un moment donné, il y ait une première année de salaire. Quand l'homme que Dieu va envoyer va venir, il ne viendra pas à temps plein, il va fabriquer des tentes, il va faire de la plomberie, il va faire de la menuiserie, il va faire un autre métier. Puis là, il va se donner à son métier. Puis là, le soir, il va prêcher la parole. Puis à un moment donné, il va se donner à la parole. Puis l'Église va grossir. Puis il va avoir une moisson qui va se faire. Lui, il va semer des biens spirituels. Puis il va récolter des biens matériels. Puis les autres vont semer des biens matériels. Puis ils vont récolter des biens spirituels. Et il y a un échange comme ça qu'on sème et on récolte ce qu'on a semé. Et donc, à Saint-Michel, j'encourage continuer à mettre des sous de côté. Parce que Dieu a préparé quelque chose à Saint-Michel pour ajouter une capacité à l'Église. Puis, éventuellement, il y a des bergers comme ça qui vont arriver. Dieu va pourvoir pour ça, mais je vous dis, il faut que tu fasses un jardin pour avoir une récolte. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu salisses tes ongles, tu mettes tes genoux dans la terre. Si tu ne fais pas de place pour avoir un jardin, le problème, ce n'est pas qu'il n'y a rien qui pousse, c'est qu'il n'y a rien qui est préparé pour que ça pousse. Donc, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans tous les métiers, et je vous dirais même à l'église, appeler quelqu'un pour dire, hey, tu pourrais-tu venir prêcher le 25? Ah non, moi, ça va en décembre. Appelle un autre, tu peux-tu venir prêcher dans le coin du 25? Ou ça va en janvier. Puis, tu sais, je parle, mettons, on avait des gens qui étaient dans le cours ici, puis de quelqu'un qui travaille ici en ville, puis il disait, il n'y a plus de prêtres. Les églises sont vides, puis là, des fois, il y a un prêtre pour plusieurs paroisses. Mais c'est vrai aussi pour les ouvriers dans le Seigneur. J'ai fait l'initiative de faire une journée de couple, parce que je me suis dit, on a besoin, mon couple en a besoin, votre couple en a besoin, nous avons besoin de semer dans nos couples. Il y avait une terre là qu'on veut moissonner, mais il n'y avait aucun orateur disponible, mais j'ai dit, je le fais pareil. Dans ma communion avec Dieu, c'est on le fait, on va voir. T'sais. Puis au pire, on mangera un repas ensemble, puis je parlerai trois quarts d'heure après, puis on repartira chacun chez nous, mais on va passer du temps ensemble. Puis ce qui est béni, c'est que j'ai appelé des gens, des conférenciers, puis les autres, ça allait à l'hiver, puis tout ça. Mais j'ai reçu un appel que je n'ai pas sollicité. Le gars prendrait de mes nouvelles, puis je dis, tu seras pas disponible, toi, le 8, là, on fait quelque chose, là, tu pourrais-tu venir avec ta femme, on aurait du bon temps, fait qu'on en parle cette semaine, puis on vous revient avec ça. Avant une récolte, il faut semer, faire de la place, enlever du gazon, salir nos ongles, puis faire de la place pour la vie. Hein? Et dans l'église, dans les petites églises, c'est la même affaire. C'est qu'à un moment donné, on reçoit la parole, puis ça porte le fruit d'une générosité financière qui permet que l'Église est encore là aujourd'hui, puis l'Église elle fonctionne encore, elle nous permet d'embaucher, elle permet de semer davantage de biens spirituels. Et vous savez, quand tu as investi du temps, de l'énergie et de l'argent dans quelque chose, habituellement, tu aimes le voir aussi prospérer. Hein? Quand tu as mis, tu as payé les études de ta fille ou de ton garçon, tu sais, ben, tu aimes ça voir que ça porte du fruit, qu'il aille dans cette école-là ou que, qu'il fasse des progrès. Pourquoi? Parce que tu y mets ta sueur, tu y as mis de ton essentiel. Mais c'est la même affaire. La moisson du Seigneur a une grande valeur parce que c'est une moisson d'âme. Certaines personnes nous enseignent la parole, sèment des biens spirituels, et nous, on prend nos sous, puis on dit hey, merci. Mais il s'arrive quelque chose, c'est que nous, quand on sème financièrement, on récolte financièrement. Donc, celui qui donne à Dieu reçoit. Dieu multiplie. Parce que Dieu est fidèle, Dieu voit qu'on met notre cœur dans ce travail-là, qui est l'œuvre du Seigneur. Puis il dit, hey, tu mets ton cœur là, puis tu y mets de ton nécessaire, ou tu y mets de tes finances, mais je vais t'en redonner davantage pour que tu sois encore plus généreux, parce qu'on travaille avec le Seigneur pour faire avancer son œuvre. Dans le passage qu'on étudie aujourd'hui, on s'aperçoit que le primordial vient déplacer le secondaire. Il y a des choses dans nos vies, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont la première chose dans notre vie. Il y a quelques affaires qui sont premières et beaucoup de choses qui sont secondaires. Jésus est en train de parler avec une femme au puits, puis il en a oublié de manger. C'est important de manger, hein? Mais il en a oublié de manger. Il était rassasié. Lui, là, je veux dire... Ça vous arrive-t-il d'avoir des émotions? Des fois, c'est plus la dépression qui nous empêche de manger, mais des fois, tu peux être excité par quelque chose, puis tu en as oublié de manger tellement que tu étais content. Bien, le Seigneur était content d'avoir passé du temps avec la femme, puis il en a oublié de manger. OK? Et on va voir que la femme, elle venait pour chercher de l'eau avec sa cruche. Mais elle a laissé là sa cruche, puis elle est allée voir les gens du village pour raconter tout ce que le Seigneur lui avait dit. On voit laisser les choses secondaire pour prendre les choses primordiales. On voit ça partout. Dans le passage, les Samaritains ont dit, hey, restez donc à coucher, crime. Venez chez nous. Ouais, mais il y a une règle qui dit qu'on ne doit pas avoir de communion avec les Samaritains. Jésus, il tasse ça. Hey, on reste ici. Deux jours. Ils ont resté deux jours parce qu'ils ont pressé le Seigneur de rester. Ouais, mais ça veut dire que le voyage a été retardé de deux jours. Les choses primordiales ont déplacé les choses secondaires. Arrivé dans deux jours, c'est pas grave. On a une gang de personnes ici qui ont le goût d'écouter la parole. Fait qu'on arrivera dans deux jours. Puis on mangera chez des Samaritains. Puis il y a bien des choses qui ont été déplacées. Les choses primordiales déplacent les choses secondaires. Et quand la bonne nouvelle de Jésus rentre dans le cœur d'une personne, qu'elle reçoit, il y a un désir dans notre cœur, d'en parler à d'autres personnes. On a le goût de parler de cette nouvelle découverte-là de Jésus, comme la femme qui laisse sa cruche-là, puis qui va en parler aux gens dans le village. Il y a plusieurs choses qui deviennent secondaires. Une personne arrive au Seigneur, elle dit, bon, ben, OK, c'est quoi que le Seigneur s'attend de moi? Ben, Dieu ajoute à l'Église ceux qui n'avaient pas d'Église, donc il les rassemble ensemble. Fait que la personne, oui, mais elle travaille le dimanche. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir son employeur et dire, c'est moyen que je rentre à 1 h le dimanche parce que il y en a plein qui n'ont pas besoin, qui ne vont pas à l'église le dimanche, qui n'ont rien à faire le dimanche, mais moi j'aimerais ça aller à mon église. Tu les vois chérir l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que Dieu est en train de commencer dans leur vie et ils vont demander les repas de famille, les bricolages sur la maison. Ça change de jour, tout d'un coup c'est rendu le samedi. Pourquoi? Le dimanche, c'est le jour où on se réunit en famille. Même les vacances, la personne n'est pas sur l'horaire de l'école. Tu sais, elle n'arrête pas à l'église en juin pour reprendre en septembre. Tu sais. Elle réalise. Et je parlais à quelqu'un dernièrement qui me disait, peut-être après une période de temps où elle n'a pas été à l'église, mais elle m'écrivait, je réalise que ma place, c'est près de Jésus. Et rien ne remplace l'église locale. Hein? Et donc, les vacances même sont prises en considérant qu'on a besoin de se réunir. C'est pas juste un devoir. Hey, moi, je suis un bon chrétien, je suis un bon soldat, puis moi, je manquerai pas. Non, j'ai faim. J'ai faim de la parole de Dieu, et c'est important pour moi. Et là, il y a des priorités. Elle laissa sa cruche, qui était son occupation, pour quelque chose de plus important. Et le rassemblement, la parole de Dieu, parler du Seigneur aux autres est devenu important et on voit qu'il y ait des effets secondaires que d'avoir connu Jésus, c'est que notre système de valeurs change, puis comme disait Ben, nos priorités sont affectées. C'est la première fois dans les évangiles, mais seulement dans l'évangile de Jean, qu'on voit une communauté de gens qui croient aux paroles du Seigneur Jésus et boivent ses paroles. C'est spécial. Parce que chez les Juifs demandent des miracles, mais les Samaritains demandent l'enseignement. Partout dans Jean, tu vois que les gens le suivent parce qu'ils ont mangé du pain. Jésus a fait des miracles, il a multiplié des pains, ils sont bien impressionnés de ça, mais ils ne veulent pas écouter ses enseignements. Ici, on a des Samaritains qui disent, la femme avait dit, ah, le Messie, quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. Exactement. Ben c'est le Messie, puis ça a l'air qu'il veut enseigner. Fait qu'eux autres, ils ont dit, ben crime, enseigne-nous. Fait qu'eux autres, ils modélisent un peu ce que la femme a dit, comme un peu pour repousser la discussion. Ah, oh, on va voir plus tard, tu sais. Quand le Messie viendra, là, il nous enseignera toutes choses. Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. Elle s'en va voir le monde, elle dit, est-ce que ça ne serait pas le Messie? Et là, eux autres viennent, puis ils vont l'écouter. Et ça, c'est une belle démonstration que l'Évangile de Jean, c'est un livre écrit pour quiconque, à celui qui. Hein? Dans Jean 3,16, celui qui croit reçoit la vie éternelle. À celui qui l'a reçu, il donne le pouvoir. Eux autres disent, hey, on te reçoit, viens, viens manger à la maison, on a de la place pour toi. C'était mal vu, on a vu dans les deux derniers messages qu'un juif parle avec un samaritain, si ce n'était pas pour marchander ou faire du commerce. C'est encore moins bien vu pour un rabbin de parler avec une femme seule en public, même sa propre femme. Le puits, en plus, c'était vu comme un lieu de rencontre où un célibataire pouvait s'accrocher une célibataire. C'est pour ça que les filles allaient toutes en groupe, en voulant dire, on ne se fera pas voir, on va checker l'agrès. Pour voir si c'est une bonne personne pour toi. Donc, il y avait ce lieu, c'est un peu le bord du village, tu sais, t'as un lieu désertique, c'était la place socialisée, pour socialiser. Donc, il y avait des règles d'étiquette, toutes sortes de choses à ne pas faire, tu sais, mais Jésus, il ne se laisse pas arrêter par ça, puis il dit, regarde, cette femme-là, elle a le soif, puis elle ne sait pas, mais elle a la soif de choses spirituelles. Et donc, Jésus va parler à la dame, et là, les disciples sont surpris qu'il parle avec une femme samaritaine, et là on comprend un petit peu mieux pourquoi. Et les disciples, c'était permis pour un disciple avec un rabbin de le questionner sur sa manière de vivre. Il fallait que tu sois poli puis tu saches un peu comment le faire. Là. Tu ne disais pas, hey rabbin, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu parles avec une femme? Non, mais maître, pourquoi est-ce que tu parlais avec une femme samaritaine? Ça serait quelque chose qui serait très approprié. On questionnait la manière de vivre d'un enseignant. Mais là, ils ne le font pas. Et le texte dit qu'ils n'osaient pas le questionner. Pourquoi? Ils ne veulent pas l'humilier devant la dame. Alors la femme, verset 28, la femme ayant laissé sa cruche s'en alla à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? » Donc Jésus lui dit, « Va chercher ton mari, puis reviens ici. » Elle ne va pas chercher son mari, elle n'en a pas, mais elle va chercher un village, puis elle amène les gens du village. Elle fait beaucoup plus que ce que Jésus lui a demandé. Elle avait dit plutôt, je vois que tu es prophète. Pourquoi? Parce qu'il a dit plein d'affaires qu'il y a juste les gens du village qui savent, puis elle aimerait qu'ils ne savent pas. Puis elle, le prophète, lui, n'a aucune idée, mais il parle Jésus, il sait, mais un prophète, normalement, n'aurait aucune idée que ce qu'il est en train de dire est en train de mettre en lumière le cœur de la personne. On a vu ça dans mon dernier message. Alors, elle va voir les gens, puis elle dit, venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Puis le mot « venez voir », c'est intéressant. La forme que c'est fait, c'est le même que « venez et voyez ». Si tu es un lecteur attentif de l'Évangile de Jean, tu as vu au chapitre 1, verset 39, que Jésus marchait, puis il y avait deux disciples qui le suivaient, André puis probablement Jean. Puis ils ont dit « Maître, où demeures-tu? » Et Jésus leur a répondu quoi? « Venez et voyez. » Venez et voyez. Puis après ça, Nathaniel, quelques passages après, au verset 42, je pense, ou 46, Nathaniel, Philippe dit, « Hey, Nathaniel, on a trouvé le Messie. Il n'y a rien qui vient de bon de Nazareth. Ben, viens, puis vois. Viens et vois. » Puis la femme a dit, « Viens et vois. » Donc, il y a un thème dans l'Évangile de Jean, c'est que les gens ne peuvent pas devenir croyants à cause de nous. Ils doivent devenir croyants parce qu'eux autres même sont venus à Jésus. Et eux autres même, ils ont prié à Jésus. Ce n'est pas nous qui avons prié pour eux, c'est eux-mêmes qui ont prié au Seigneur pour avoir la vie éternelle. Et c'est ce qui se passe, et on voit vraiment dans ce passage-là, même à la fin, les Samaritains disaient, hey, « on est venu parce que la femme, elle nous a fait sortir notre sac de chips. » C'était trop croustillant. Tu sais, « venez me voir le gars qui a dit tout ce que j'ai fait. Ah oui, enfin, quelqu'un qui la met sur le spot, elle va le jour de midi pour que personne ne la voie. » Tu sais. Fait qu'on va sortir les sacs de chips, ça va être intéressant. Fait qu'au début, ils viennent parce que c'est croustillant. Mais après ça, ils viennent parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus. Fait que, tu sais, les gens vont venir à l'église parce qu'ils vont dire, qu'est-ce qui a changé dans la vie de Suzy Kim, Jean-Claude, François, Sylvain, Philippe? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'ils ont fait, cette église-là? Pour réaliser que ce n'est pas l'église qui a fait quelque chose, mais que ces personnes-là ont une relation avec Jésus et il y a eu un changement dans leur vie et ça le saisit. Et cette femme-là, ce qui l'a saisit, c'est qu'ils la connaissent, puis ils la décrivent, qu'ils la mettent sur le spot comme ça. Et elle leur dit, gars, venez voyez. Fait qu'on sort le sac de chips. Une femme qui avait un style de vie douteux, avec une sexualité hors mariage, puis en plus, elle avait eu 5 maris, puis le 6e, c'était un gars qui vivait en concubinage avec. Elle va, puis on savait que chez les Juifs, après 3 mariages, c'était interdit. Elle était déjà rendue, elle, à 5. Elle a puisé de l'eau sur le midi pour éviter les blabla, puis le commérage du village, puis tout ça. Elle qui se tient à l'écart, laisse sa cruche, puis va dire, venez voir celui qui dit tout ce que j'ai fait. Ça vaut un sac de chips, n'est-ce pas? Vous allez voir qu'est-ce qui a changé radicalement cette personne de renfermée à l'écart à évangéliste. Elle a rencontré le Seigneur. Vous savez, quand on vient à Jésus, on commence à changer, puis on continue à changer quand on s'approche de lui. Et il y a un travail qui est fait sur nos vies. Et là, nos motivations changent et les gens sont curieux autour et veulent se questionner à propos de ce qui s'est vraiment passé. Et notre témoignage n'est pas que nous avons fait du bien. Elle ne dit pas, « Venez voir tout le bien que j'ai fait pour que Jésus m'accepte. » Elle dit, « Viens voir ce qu'il dit que ce que j'ai fait. » C'est vraiment le témoignage de la grâce de Dieu qui nous a été fait. Regardez dans Tite, le passage, on va regarder à l'écran. Tite 3:5 dans la parole vivante. Mais un jour parut la bonté de Dieu, notre Sauveur. Son amour pour tous les hommes s'est manifesté et il nous a sauvés. Ce ne sont certes ni nos mérites, ni notre moralité qui ont poussé Dieu à intervenir. Il n'a pas regardé si nous avions accompli les œuvres exigées par ce qui est juste, mais c'est quoi qui l'a inspiré, le Seigneur? S'inspirant de sa seule bonté, il nous a sauvés, il nous a fait passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire nous renouvelant par le Saint-Esprit. On avance? Mais, cet Esprit, il l'a répandu généreusement sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, c'est par sa grâce que nous avons été déclarés justes. Écoutez ceci, nous sommes donc maintenant considérés comme si nous avions toujours satisfait aux exigences de la justice divine. Du même coup, nous sommes devenus ses héritiers promis à une vie qui ne finira jamais. Oui, telle est notre espérance. Dieu te regarde et dit, tu es juste, comme si tu as tout accompli, toute la loi et tout ce qui exigeait la loi. On appelle ça la doctrine de la justification. Mon péché sur Jésus, sa justice sur moi. Un échange qui a été fait. Et moi, je suis considéré comme ayant un casier vierge alors que je suis appelé en jugement pour tous mes péchés et je mérite le lac de feu. Mais là, j'ai plus le lac de feu parce que le casier judiciaire est effacé parce que mon péché est donné à Jésus et sa justice est mise sur moi. Et là, j'ai cette robe blanche de justice qui est la vie parfaite de Jésus. Et je suis considéré comme aussi parfait et juste que la personne de Jésus. La justification. C'est pas merveilleux, ça? Venez voir celui qui dit tout ce que j'ai fait. Elle n'a plus rien à cacher. Elle ne sait pas encore totalement qu'est-ce que Jésus va faire. Mais nous savons que sa vie parfaite a été mise à notre compte et notre péché a été mis à sa mort. Et que sa mort a été comptabilisé pour nous comme une justice. On revient au contexte. Les disciples sont surpris qu'il n'a pas encore mangé. Il doit être en train de se digérer par en dedans. Et il semble satisfait. Il en a oublié de manger. Mais j'en vois des fois ici qui ont des plus petits estomacs et ont besoin de manger régulièrement. Hein? Si tu as besoin d'aller manger, tu y vas, hein? Des fois, vous voyez notre ami Stéphane là, se lever, là, puis c'est pas parce que je l'endors, c'est parce qu'il a besoin de manger son 10e repas de la journée. Donc, mais pour en revenir, la réponse de Jésus à ça, t'as-tu mangé? Y a-t-il une nourriture qu'il a mangée qu'on ne saurait pas? Y a-t-il quelqu'un qui a amené à manger? La réponse de Jésus est curieuse, mais rendue au chapitre 4 de Jean, elle n'est pas étonnante. Il leur dit au verset 32, « Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus est le maître dans l'art de prendre quelque chose de naturel, comme la naissance d'un bébé, pour parler de naître de Dieu. À Nicodème, il avait fait cela. À la femme, elle a soif avec de l'eau. Ben, il lui dit, donne-moi à boire, puis après ça, pouf, il dit qu'il peut lui donner de l'eau qui va lui donner de la vie éternelle. En gros, là, c'est comme ça que ça signifie. Plus tard, il va parler de la moisson qui blanchit, tu sais, parce que les Samaritains, ils sont tous habillés en blanc, ils sont tous en train d'arriver, tous des cotons-tiges qui arrivent un peu, là, ils sont tous habillés en blanc. Puis Jésus va prendre une image de la moisson, mais il va parler de la moisson. Puis alors, il dit, levez les yeux, voyez les champs qui sont blancs. Puis tu vois tous les Samaritains habillés en blanc qui arrivent. Tu sais. Il va prendre souvent des choses de cette terre pour nous parler des choses spirituelles. Puis là, il va dire, moi, ma nourriture, là, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, puis d'accomplir son œuvre. Jésus est en train de dire qu'il est rassasié par le fait qu'il fait ce que le Seigneur lui demande, ce que le Père lui demande. Puis je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a deux ou trois messages de cela, c'était écrit, et Jésus, au chapitre 4, 1, là, quand ça commence, il dit, Jésus dit, il faut que j'aille en Samarie. Mais il ne fallait pas, il aurait pu passer par la voie de contournement comme c'était habituel, mais il savait qu'il fallait qu'il aille là, puis il savait qu'il fallait qu'il parle, il savait, en tout cas, ça c'est on voit qu'il a rencontré cette femme-là, puis il y a un réveil qui se passe. Jésus, il est rassasié de faire la volonté de son Père. Tu sais, quand vous avez faim, là, puis vous ne reposez pas jusqu'à temps que vous avez mangé, là, puis là, vous mangez, oh, là, vous êtes bien. Là, vous êtes rassasié. C'est comme, oh, là, le calme revient. Mais Jésus, il est calme dans son esprit, puis là, je suis satisfait d'avoir fait ce que le Seigneur me demandait. Et donc, je veux vous parler de cette satisfaction de servir le Seigneur. Je veux vous parler de cette satisfaction d'avoir laissé là votre cruche, puis d'être allé faire l'œuvre du Seigneur, puis d'avoir mis des choses plus importantes que votre cruche que vous prenez à chaque fois que vous allez faire l'épicerie, à chaque fois que vous faites vos commissions, à chaque fois que vous allez travailler, à chaque fois que vous faites tout ce que votre vie vous demande, mais que vous dites, « Hey, sais-tu quoi? Mets-tu un peu de côté? Je vais m'ouvrir à d'autres. » Un ami à moi racontait récemment avoir frappé une porte, et pendant qu'il frappait à la porte, trois athées assis à la table, un père, sa femme et sa fille, discutent. Le père ouvre la porte. Mon ami lui dit, « Monsieur, je vais vous parler de prévention suicide. J'aimerais vous dire, parler de Jésus. » Le gars, il dit, « Je t'interromps tout de suite. » Va chercher sa femme et sa fille. Il dit, « Viens ici. » Pendant que tu frappais à la porte, nous parlions de Jésus. Nous sommes athées, mais je suis en train de me questionner si nous le sommes vraiment. Parle-nous. Wow! Le gars était tellement content qu'il a fait une vidéo sur Facebook, il a partagé son expérience. Pourquoi? Il réalisait qu'il travaillait avec Dieu et ça l'a frappé. C'est satisfaisant de savoir que tu as été mis à un moment donné comme ça, dans une place où tu as vu que, hey, crème, je suis là au bon moment, il y avait besoin d'un troisième homme ici, puis je suis arrivé, c'est drôle, pareil, hein? Les coïncidences, c'est Dieu qui souvent reste anonyme. Mais Dieu, on travaille avec Dieu, puis il nous place. Il nous envoie comme un vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où ça retourne, mais tu as été placé là. Et toi, tu es la présence de Dieu pour cette personne-là. À cause que tu as accepté le Seigneur, tu es le temple du Seigneur. Il y a une satisfaction que de servir le Seigneur. Puis dans l'original, Jésus ne dit pas « il faut que je fasse l'œuvre », il dit « il faut que je termine l'œuvre que Dieu m'a donné à faire ». Et Dieu pourtant, quand il a fait la terre et les cieux, dans Genèse 2, c'est écrit que Dieu avait terminé son travail. Mais est-ce que Dieu a vraiment terminé son travail? Il a terminé la création, mais tout est à faire. Quand j'ai acheté mon terrain en 2008, il a servi à faire pousser la mauvaise herbe et le gazon, puis à être tondu à chaque semaine, mais il n'a rien servi. Et puis là, tranquillement, je suis en train de m'amuser sur le terrain à cause que mon père me donne des plantes et tout ça. Et tout est à faire, là. Je réalise que tout est à faire. Puis une autre chose aussi que je découvre, c'est que quand tu fais une petite affaire, tu en fais une deuxième petite, puis une affaire en amène un autre, puis un petit projet en amène un autre petit projet, puis un autre petit projet. Puis dans l'œuvre du Seigneur, c'est la même chose. Quand on commence à faire quelque chose qu'on pense que le Seigneur nous montre, puis on creuse là, on enlève les mauvaises herbes, puis on commence à faire, on voit la vie de Dieu commencer à pousser, puis des fois, je suis assis dehors, je passe plus de temps dehors qu'en dedans ces temps-ci, et on a un sanctuaire, je l'appelle notre sanctuaire, c'est un gazebo qui est arrivé lundi, puis j'avais fait de la tuile l'année passée, puis là, c'était on m'a aidé, on m'a conseillé. Encore une fois, je vous parlais là, de l'aide que je reçois souvent. Là. On m'a conseillé sur les meilleures choses à choisir et tout ça. Et je pense, je suis assis dehors, des fois je marche sur mon terrain. Je n'ai pas fait ça depuis 2008, mais là je marche, puis je me vois sur le bout de mon balcon, puis je regarde de gauche à droite, puis je pense à où c'est que va aller mon sentier, où c'est que je vais mettre les fleurs. Puis tu sais, je ne suis pas un gars de jardin, comme certains le savent. Et je prends des pauses, je vais arroser les fleurs et j'imagine qu'est-ce que ce terrain-là va devenir. J'imagine mes enfants, mes amis venir sur le bord du feu. Je me pratique à ne pas brûler la nourriture sur le charbon de bois. Donc si vous venez, ça se peut que vous fassiez partie encore de mes pratiques. J'imagine le rire, j'imagine la joie, j'imagine la communion. J'imagine un petit sentier ici, des fines herbes là. Je me laisse aller. Je réfléchis. Quand je pense à l'Église, quand je pense à ce qu'elle peut devenir, je pense à une âme qui vient au Seigneur, un couple restauré ici, des larmes essuyées là, la consolation de l'Évangile qui rentre dans un foyer. Je vois des gens rire, avoir du bon temps. Je vois un attachement pour les rassemblements. Je vois le désir de ne pas manquer une portion de la parole. Tu sais, hey, je ne pourrais pas être là, je peux-tu avoir l'enregistrement quelque part, tu sais, parce que j'ai faim. J'ai soif de la Bible. Qu'est-ce que je vois? Je vois une place dans le journal mensuel ici où l'Église a son podium pour donner la parole de Dieu à chaque mois. Je vois une minute d'espoir à Kik FM ou à une autre station de radio. Une minute d'espoir comme ça dans la journée où on annonce la parole sur les médias. Vous savez, ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que j'en parle depuis au moins 2006. Je vois des chrétiens rétrogrades. Un chrétien rétrograde, ce n'est pas quelqu'un qui est retourné dans le monde, c'est quelqu'un qui a arrêté d'avancer quand Dieu continue d'avancer. Je vois un chrétien rétrograde dire, hey, sais-tu quoi? Y a-tu des voyages de terre à faire? Y a-tu quelque chose à faire que je pourrais faire? Je vois des grappes de 3 ou 4 personnes, parce que dans un village, tu ne viens pas tout seul, les gens vont parler de toi, mais on peut venir 4 madames ou 3 ou 4 personnes, ils vont venir par grappes. Je les vois venir... Par grave, je vois des chrétiens, comme je disais, des rétrogrades qui roulent leurs manches et qui veulent avoir une ardeur nouvelle, renouvelée pour le Seigneur. Dieu est actif dans la création. Il n'est pas ce Dieu qui a créé le monde il y a 2000 ans et nous a dit « débrouillez-vous ». Il veut travailler avec nous. Il veut servir avec nous. Il veut. Jésus ne dit pas qu'il veut faire l'œuvre de Dieu, mais il veut terminer. Qu'est-ce qui lui a été donné à faire? Mais vous aussi, il y a quelque chose qui vous a été donné à faire. Il y a quelque chose, chacun d'entre vous, il vous a été donné des œuvres. Et Jésus, sur la croix, il a dit, tout est accompli. Il a terminé l'œuvre. Paul, quand il écrit 2 Timothée, il dit, j'ai terminé la course, j'ai achevé mon œuvre. Maintenant, la couronne de gloire m'est réservée. David, il est écrit dans le livre des Actes qu'il a accompli le dessein de Dieu dans sa génération. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Est-ce que c'est ce désir-là? Aimeriez-vous que Dieu dise, « C'est-tu quoi? Merci d'avoir travaillé avec moi. » Olivier Choah a écrit une toune qui s'appelle « Persévère ». Si Dieu a mis un rêve dans ton... En passant, tout ce que j'ai dit, je vois, c'est « je rêve ». Si ce n'est pas comme ça, ce ne sera pas comme ça. Mais si c'est comme si Dieu est dans la chose, bien ces choses-là vont arriver. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire. Persévère, oui, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi, et confesse que Dieu est vrai et que sa parole est éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain, toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive, quand il ordonne, elle existe, et son regard est sur ceux qui lui appartiennent. Encore une fois, non, ça c'est le chant qui dit de dire encore une fois, persévère. Ça c'est persévère, 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 persévère. Car sa parole, elle s'accomplira, oh oui, elle s'accomplira certainement, oh oui, elle s'accomplira. Éphésiens 2:10, un de mes passages préférés, dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » Dieu prépare d'avance. Est-ce qu'il a fait tout ça au début, puis après ça, il a dit « Gars, je suis parti, la note est sur le frigidaire, prends la ligne 1, puis rentre-toi jusqu'à la ligne 10. » Non. À celui qui est fidèle, Dieu en donne plus. Fait que plus tu vas être fidèle à ce que Dieu te donne à faire, puis tu t'embarques là-dedans, plus que Dieu va ajouter à ta fidélité, puis il va te donner d'autres œuvres. Clairement, une personne qui a reçu le don de la vie éternelle, des œuvres sont préparées pour elle aussi. Mais comment est-ce qu'on trouve ça, Jean-Sébastien, des œuvres que Dieu a préparées pour nous? Premièrement, Dieu nous demande de nous joindre et de nous affectionner à une église qu'il compare à un corps humain. Dans 1 Corinthiens 12, 12 et 27, ça nous parle que chacun... Nous sommes membres les uns des autres et nous prenons soin les uns des autres. Donc, nous sommes une famille aimante de croyants. Et donc, la première chose qui est importante, c'est de s'attacher à une église, s'affectionner à sa mission et à sa vision. Mais vous dites, oui, mais c'est beau, OK, je suis là, j'écoute la parole. Posez la question, c'est quoi la vision? Vers où on veut aller? Et poser aussi la question, comme dans Acte 6, s'il n'est pas bon pour les anciens de faire toutes ces choses-là, comment est-ce qu'on pourrait venir à côté de vous pour prendre des tâches plus administratives, pour que vous puissiez semer plus les choses spirituelles. Donc, poser la question, comment est-ce que je peux dégager les anciens de l'Église? Okay? Et en tant que membre assidu et fidèle de l'Église, vous allez aussi commencer à avoir un cœur qui bat au même rythme que cette Église-là. Et vous essayez de trouver comment, puis au début, vous ne ferez pas ce qui est votre don, puis vous allez être placé dans ce qui est plus votre don. Parce que les gens vont reconnaître aussi votre don, mais on fait qu'est-ce qui est là. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Pasteur, c'est quoi qui est trop lourd pour toi, là? Tu vas aux États, tu trouves ça lourd, tu aimerais mieux servir plus dans la communauté, je vais aller aux États à ta place. Quoi d'autre? Ah, ben il y a ça aussi, l'audiovisuel, là, c'est ta bric-à-brac, tu pourrais... Je vais m'occuper de l'audiovisuel, pense à d'autres choses. J'aimerais ça, moi, faire des dévotions pour que les gens, à chaque jour, on ait un contact avec eux. Ben, parfait, en 92, j'étais dans les premières, on était une des premières églises qui faisait des dévotions en direct ou des messages en direct. Des heures à se casser la tête. Ça, c'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour vous dans ce qui est vos dons à vous autres. Qu'est-ce qui ferait que je pourrais amener mon petit grain de sel ici, puis qu'ensemble, on sentirait crime qu'on est un corps. Okay? Donc, croyez ce que l'Église tente de faire. Ça, c'est important, croire à ce qu'on est en train de faire. Croire à ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on occupe de l'espace, puis on brûle du courant? On brûle le courant des lumières, du PowerPoint? Qu'est-ce qu'on fait? On occupe de l'espace, puis on brûle du gaz? Puis après ça, on mange, puis on va à la toilette? Non. Faut que je parle de ces choses. Qu'est-ce qu'on fait? On fait plus que ça. Posez-vous la question, comment vous pourriez faire la différence et bonifier ce qui est déjà fait? Galates 6, 9 à 10 dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant qu'on a, et si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et tout particulièrement avec les frères dans la foi. » Galates 6, 9 à 10. Il y a des choses de bien à faire. Comme Ben disait, ce n'est pas juste à l'Église que ça se passe partout où on est dans le monde. Alors, il y a des choses qui sont bien à faire dans le monde, mais il y en a qui sont bien à faire envers les frères dans la foi en premier. Deuxième chose, si vous voulez savoir qu'est-ce que Dieu veut pour vous, que ce soit la vente d'une maison, que ce soit n'importe quoi, Dieu nous parle de s'offrir à chaque jour et de s'exposer à la parole de Dieu, lue, étudiée, méditée, enseignée. Vous savez, quand on écoute un message, on a 15% à peu près de ce qu'on a enseigné. Fait que là, moi, après, ça me console des fois. Je pourrais peut-être ressortir un vieux message, puis j'aurai encore 85% de marge pour, à moins que tu aies réécouté le message dans la semaine, là, je vais me faire avoir. Mais tant mieux. Il faut être béni ici, là, dans la parole de Dieu. Nos pensées doivent être renouvelées. Romains chapitre 12, versets 1 et 2 nous dit que si on se baigne dans la parole de Dieu, puis qu'on dit au Seigneur, regarde Seigneur, voici mon corps, je te l'offre aujourd'hui, j'aimerais ça travailler avec toi. Eh bien, Dieu va te placer dans des situations que tu n'aurais pas été avant. Puis juste parce que tu as dit, garde, voici mon corps, Seigneur Dieu, puis garde, je suis ton serviteur. On va le lire dans la parole vivante. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. Voici, Seigneur, me voilà. Aujourd'hui, je vais aller au travail, je vais aller à l'école, il va se passer à peu près ça. Mais garde, Seigneur, mon corps, c'est ton véhicule. Habite-le pleinement. Dirige-moi. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition. Moi, je ne suis pas une offrande morte, comme dans l'Ancien Testament, je suis une offrande vivante. Sainte, ça veut dire consacrée, qui plaît à Dieu. Ça, c'est un culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. On ne devrait pas, à force d'être avec le monde, on ne devrait pas être comme eux. Les gens devraient dire, je veux être comme toi. Même quand tu vas dans un groupe de personnes, ce groupe de personnes devrait dire, j'aime ta façon de penser. Soyez différents. Soyez, pensez pas, laissez-vous pas transformer par la pensée des habitudes du jour. Hein? Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. C'est pour ça que je disais être baigné dans la parole. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Puis des fois, c'est juste après que tu vas l'avoir fait que tu dis, écris, mais Seigneur m'avait envoyé ici. J'étais à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes. Puis je savais dans mon fort intérieur comment agir. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit dans une réelle maturité. Ça, c'est pas bon. Comme les organes et les membres du corps, nos talents varient suivant la grâce qui nous a été conférée. L'un a reçu le don d'adresser des messages inspirés, ben, que ses paroles découlent de sa communion avec Dieu et qu'il reste conforme à la règle de notre foi. Ça, c'était le ministère de prophète qui existait beaucoup dans le Nouveau Testament avant qu'on ait la Bible. Mais encore, quelqu'un pourrait avoir le don de communiquer des choses, des pensées de Dieu, puis que ça serait conforme à la parole de Dieu. Un autre a le don d'exercer des activités pratiques. Il s'est vu confier le ministère du service, diaconat, ou de la gérance des biens matériels, tu es un administrateur ou tu t'occupes plus de l'audiovisuel ou des affaires comme ça, qu'il prenne ses responsabilités au sérieux et serve ses frères de tout son cœur. C'est pas parce que tu comptes des chiffres dans un bureau pour l'église locale que tu n'es pas dans un ministère spirituel. C'est un don à gérer les biens matériels, ben fais-le pour tes frères, pour tes sœurs de tout ton cœur. Un autre est doué pour expliquer la parole et exposer la doctrine. Qu'il se consacre à cette tâche et qu'il utilise son don pour instruire ses frères. Un autre, c'est exhorter. Toi, là, je veux dire, on parle avec toi, puis tu as toujours un mot pour encourager. Crème, fais-les plus souvent. Exerce-toi à ça. Qu'il prenne fidèlement ceux qui lui sont confiés et que ses paroles leur apportent un réel réconfort. Je veux dire, tu parles, ça réconforte. Crème, continue. Que celui à qui Dieu a confié des richesses matérielles en fasse part généreusement, qu'il donne en toute simplicité, sans calcul ni arrière-pensée, que celui qui est chargé de distribuer le secours soit impartial. On ne peut pas aider plus une personne qu'une autre, donc. Hein? Que celui qui sait diriger le fasse avec autorité et zèle, que celui qui préside les réunions y mette tout son cœur. Si vous visitez les malades, apportez-leur la joie. Faites comme Patch Adam, faites-les rire. Hein? Si vous exercez la bienfaisance, faites-le avec le sourire. L'amour ne supporte pas les masques. Hein? Que le vôtre soit authentique et sans affectation. Aimez en toute sincérité. Haïssez le mal. Ayez en horreur le mal et détournez-vous-en. Laissez-vous attirer par le bien. Attachez-vous fortement. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frères. D'une affection vraie et profonde. Estimez-vous mutuellement. Placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant supérieur. Tout le monde, c'est vos patrons. Puis vous êtes sous eux. Okay? Considérez-les comme supérieurs à vous. Soyez les premiers à témoigner des égards. On ne m'a pas parlé ici. Je suis venu dimanche, mais on ne m'a pas parlé. Arrête, change de tune. Je suis venu dimanche. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelqu'un disait dernièrement, ben pas dernièrement, mais à un moment donné, je me sens seul dans l'Église. Tu as le ministère pour les gens seuls. Tu arrives à 9h30, le dimanche, tu fais des toasts, on se fait un quick, ou un tisane, un thé noir, n'importe quoi. Fais-nous des beignes, amène des beignes, on va te donner un budget pour ça, tu sais. Viens ouvrir l'Église, Crim. Puis là, on va annoncer au pupitre que on mange des beignes le dimanche matin, ou des muffins, ou n'importe quoi, tu sais. Puis tu vas casser l'isolation comme ça. Puis en plus, si tu trouves qu'il manquait d'amour, bien, on va en mettre plus de l'amour dans cette église-là. Qu'est-ce que tu en penses? On a ces défis-là. Vous savez, quand on a une difficulté, là, on a deux choix. On se plaint de notre difficulté ou on aide ceux qui ont la même que nous. Parce que le Seigneur, lui, est fidèle là-dedans. Puis quand tu vas être obligé d'aider quelqu'un qui a un peu cette difficulté-là, qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur va venir mettre sa main dans ça aussi. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a perdu quelqu'un par deuil ou quelqu'un qui a été divorcé. Il n'y a pas mieux qu'un divorcé pour comprendre une personne seule qui a été divorcée. Donc, soyez les premiers à témoigner des égards. Soyez pas ceux qui disent « qu'est-ce que l'Église pourrait faire pour moi? » Soyez celles qui disent « qu'est-ce que je pourrais faire pour cette Église-là? » Il y en a plus d'amour dans cette Église-là. On avait fait à un moment donné un dîner de Noël, puis il y avait genre 2/3 non-croyants, 1/3 croyants. C'était glacial. Puis il y a un gars qui est venu me voir, il m'a dit « c'est glacial ici. » Ben, je comprends. J'ai dit « il y a 2/3 que c'est des non-croyants qui se demandent tout, voir si on est en train de les avoir. » Tu sais, ils savent pas, les autres-là, ils viennent d'être invités. Ben, j'ai dit « il n'y a pas beaucoup de croyants, je trouve, par table. » Donc, ce qui est important, c'est qu'on puisse mettre notre main à la pâte puis nous faire un témoignage. J'arrive à la fin. Je prends un petit peu plus de temps parce qu'il n'y a pas d'introduction, j'en profite. Ne devenez pas nonchalant. Ah, on peut être zélé quand on arrive au Seigneur puis devenir nonchalant avec le temps. Mais il dit, ne devenez pas nonchalant dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Wow, quel passage! Tout ça. Après avoir dit, offrez-vous vous-même au Seigneur. Donc, offre-toi au Seigneur, puis ça devrait avoir comme conséquence de servir le Seigneur, puis de dire, Seigneur, moi, un peu comme quand tu marches dans ton jardin, puis tu dis, qu'est-ce que je pourrais faire, Seigneur? Qu'est-ce que je pourrais faire avec ce jardin-là? Comment je pourrais arranger mon terrain? Ah, je vais mettre une clôture sur le long de mon sentier, ça va être cool, les fleurs rampantes vont aller après. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'Église, Seigneur? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que moi, je pourrais faire, Seigneur? T'as-tu préparé des œuvres pour moi, Seigneur? Ce serait quoi, Seigneur? Seigneur, j'ai le désir d'être utilisé par toi aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais regarde, Seigneur, fais-le. Et là, tu vas devenir à l'affût. Le Seigneur va parler à ton cœur et va te donner des opportunités. J'ai été béni le mois passé d'avoir Gilles, Ben, Marie-Ève et Steph. J'ai oublié quelqu'un pour le déménagement? Hein? Oui, Sébastien était venu. Il n'avait pas pu venir pour le déménagement. Il était venu pour m'aider à l'audiovisuel le vendredi. Puis les enfants Gilles. Ils sont venus m'aider pour le déménagement. Vous savez, quand j'ai vu cette journée-là, on a fini à 5h le soir, puis après ça, j'allais faire mon message pour le lendemain. J'aurais pas imaginé moins de personnes à ce déménagement-là. Et j'ai aimé Ben, à un moment donné, on transportait des boîtes, puis toutes sortes d'affaires. Il me dit... Tu sais, Jean-Sébastien dit, moi, je considère l'Église comme si c'était ma maison. Fait que quand il faut que tu rentres du bois, là, puis que c'est l'automne, parce que ta maison a besoin de chauffage, bien, c'est ma maison, fait que j'ai pas le choix. Je tasse de mes autres affaires. Je laisse là ma cruche, puis je fais d'autres choses. T'sais. Fait qu'il dit, puis c'était vraiment, tu sentais pas qu'il accusait d'autres personnes de ne pas être là. Tu sentais vraiment que c'est comme, moi, je considère que c'est un devoir pour moi de venir m'occuper de mon Église, puisque c'est mon Église. Tu sais, comme j'ai besoin de rentrer du bois pour ma maison, je me pose pas la question s'il faut que je le fasse ou pas pour mon église, parce que c'est comme mon église. puis j'ai une appartenance à cette église-là. Fait qu'il s'est arrangé pour venir. Il dit même, je m'en suis fait un devoir, puis je voulais dire, Ben, j'aime ton cœur. Garde ce cœur-là. Tu nous encourages à servir de cette manière-là. On va revenir à notre texte. Jésus dit, ce qui compte, c'est que je fasse ce que mon Père m'a demandé. Jésus est rassasié d'avoir travaillé et terminé ce que le Père, ou il est en train de terminer ce que le Père lui a demandé à faire. Il est rassasié comme un repas pour une personne affamée. Et là, il va dire, ne dites-vous pas que dans 4 mois, c'est la moisson? Fait que là, quand il dit ça, ça veut dire qu'il est soit en décembre, soit en janvier, parce que la récolte de l'orge se faisait en mars, puis la récolte du blé en avril. Puis là, il dit, ne dites-vous pas que la récolte est dans 4 mois. Mais là, quand tu regardais les champs, il n'y avait rien qui était prêt. Là. Il y avait les semis, ça commençait, peut-être les petites pousses qui commençaient à sortir. Puis là, Jésus dit, ne dites-vous pas que dans 4 mois, il y a la moisson. Puis là, il va leur dire, moi, je vous dis, les champs déjà blanchissent. C'est quoi la fin? Savez-vous que dans les prophéties de la fin des temps, Amos dit ceci, il dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur et que celui qui foule le raisin, là, c'est avec ses pieds, là, le fait, il le fait tout de suite après que l'autre ait remis sa semence. » Fait que c'est comme, OK, la vigne a été semée, ou en tout cas, il y a eu quelqu'un qui a semé, puis tout de suite après, le laboureur embarque, puis il laboure, qu'est-ce qui a été semé? Dans Acte 2, Pierre prêche, le peuple a eu le cœur vivement touché. Au chapitre 3, il dit, « Mais que ferons-nous? Ben, repentez-vous, puis soyez pardonnés pour le pardon de vos péchés. Semence, récolte! » Puis c'est comme ça dans l'ère de l'Église. C'est pas 4 mois, c'est tu vas semer la parole, puis des fois, ça va sortir vite. Des fois, il faut que tu sois patient, ça prend 4 mois. Puis là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il dit, « Voici, les champs déjà blanchissent. » Cette photo, c'est une photo de Samaritains en 2006 sur le mont Gérazim. As-tu du blanc assez à votre goût là-dedans? Fait que Jésus dit, « Levez les yeux et voyez les gens qui blanchissent. » Puis là, tu vois tous ces Samaritains habillés en blanc qui arrivent. Vous savez, Seigneur, il peut envoyer des armes. Je disais, ça fait quelques fois, je disais, hey, j'aimerais ça avoir des femmes qui s'occupent des femmes, puis tu sais qu'on pourrait tu sais, faire de l'évangélisation, avoir un petit peu plus de monde. Tout ça. Puis je me pose la question, là, on est une petite église, est-ce qu'on va être prêt à prendre soin de ceux que Dieu va nous envoyer? On va-tu avoir du temps? On va-tu pouvoir laisser notre cruche de côté pour dire, moi, je vais prendre une demi-journée, là, puis je vais prendre le soin d'une nouvelle personne qui vient d'arriver au Seigneur, un célibataire que je pourrais passer du temps avec lui, puis l'enseigner dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on a ce temps-là, cette flexibilité-là pour tasser notre cruche, la mettre de côté? Eh bien, c'est un peu ça ici qui est l'enjeu. Puis le passage dit qu'il y a plusieurs Samaritains qui ont cru, puis ils ont reçu accoucher, puis ils ont resté 2 jours. Et l'Église doit toujours être prête à se revirer rapidement. Et là où la parole a été semée, qu'il y a une réponse rapide, puis que là, oups, là, excuse-moi, mais j'avais pas prévu ça dans mon horaire, mais je pense qu'on va tasser des choses un peu secondaires pour laisser rentrer cette nouvelle œuvre que Dieu veut faire. Donc, est-ce qu'on va être des outres de cuir qui prennent l'expansion du nouveau vin ou des vieilles outres qui ne peuvent pas contenir ça? Et le passage semble suggérer cette idée. Jésus mange pas, la femme laisse son outre, il reste 2 jours, ils vont manger chez des Samaritains qui d'habitude ne sont pas supposés de rester là. Il y a plein de choses qui sont comme tassées pour l'œuvre de Dieu. Donc, le mouvement de Dieu va nous amener. Et puis, j'ai demandé à toutes les personnes qui ne sont pas ici d'écouter ce message-là. Parce que c'est un message vraiment qui détermine le futur de l'Église. Dans le sens où chacun, on est des membres, chacun pour notre part, puis on a besoin de dire, hey, « Seigneur, oui, je veux m'investir, je veux continuer à servir dans cette église-là, je veux m'affectionner au rassemblement, puis je veux voir d'autres familles s'ajouter à cette église-là. » Ben, j'ai terminé. Drette là, drette comme ça. Donc, le mouvement de Dieu amène une personne à laisser sa cruche. Le repas qu'il devait manger, ou la journée à laquelle il devait arriver de son voyage, Dieu ajoute des gens à la communauté de foi, l'Église, et l'Église est là pour les servir et les accueillir. Amen. Je finis par un mot de prière. Seigneur, dans ce message, ça vient mettre à jour dans mon cœur la familiarité. C'est-à-dire qu'on peut, moi, dans mon cœur, je peux être devenu une personne, Seigneur Dieu, qui est venue occuper un siège dans l'Église. Je peux être une personne qui s'est posé la question, qu'est-ce que l'Église peut faire pour moi? Mais je ne me pose pas nécessairement la question, qu'est-ce que moi je peux faire pour que cette Église-là passe au prochain niveau? Puis au prochain niveau, ici, on ne parle pas d'une structure, d'un collège biblique, puis de toutes sortes d'affaires. Là. Tu sais, comme je parlais avec Marie-Ève cette semaine, on n'est pas à faire des gros programmes. Là. On est à chacun pour sa part, faire les petites choses qu'on fait, mais les faire bien, puis avec cœur. À un certain, Dieu va juste dire, garde que votre amour soit sans hypocrisie. À un autre, Dieu va dire, tu as de l'argent, sois généreux. À un autre encore, Dieu va dire, toi, tu as un don pour les choses matérielles, mets-les au service. À un autre, Dieu va dire, toi, tu as un don pour partager, fais-le selon la règle de la foi. À un autre, va dire, Dieu va dire, mets les rassemblements en priorité. Seigneur, je te remercie pour cette histoire, Seigneur, que les Samaritains étaient plus disposés que les Juifs, parce que les Juifs y attendaient des miracles, mais ils n'écoutaient pas ta parole. Seigneur, donne-nous ce cœur-là des Samaritains, Seigneur Dieu, pour être enseignable et enseigné. À un autre, Dieu va dire, ne prends pas simplement le message du dimanche, mais sois dans la parole le reste de la semaine pour que je puisse te diriger, que je puisse renouveler tes pensées. Fait que, Père, merci pour la parole que tu nous as laissée. Elle nous défie, cette parole-là, et je suis certain que j'ai défié l'Église, autant à Saint-Michel qu'ici à Victo. Et c'est un défi auquel je ne m'esquive pas moi-même. Donne-nous un rêve pour les gens autour de nous. Donne-nous un rêve, même pour nos frères et sœurs, Seigneur Dieu, des guérisons, des délivrances. Donne-nous un rêve pour que, comme on a vu dans le passage, qu'on soit bon envers les frères, dans la foi premièrement, puis envers tous. Tu n'as pas juste un rêve d'atteindre les perdus, tu as un rêve de nous atteindre, nous, ce matin.